Et en plus des annonces radiophoniques, il y avait à chaque fois systématiquement un personnage qui était juché sur un pick-up, à l'arrière d'un pick-up, avec un mégaphone à la main et qui annonçait la venue du président. Et donc, lors de telles visites ou lors de tels passages solennels, on avait coutume de nettoyer les bords de route, de remettre en état les places publiques, de déblayer et de décorer toutes les rues par lesquelles le président passait. Donc, ce personnage, garni d'un microphone, avait un rôle très important, celui d'annoncer, de préparer la venue du président. Frères et sœurs, nous vivons la période de l'Avent. Donc, l'Avent est ce temps qui nous fait vivre à la fois la célébration de la première venue de Jésus-Christ et une entrée dans l'espérance de la seconde venue de notre Seigneur. Et dimanche dernier, donc, lors de l'Avent, nous avons aussi pour habitude de lire certains textes bibliques qui parlent effectivement, qui annoncent la venue de Jésus, notre roi et sauveur. Et dimanche dernier, notre frère Étienne Larmenot, lors de sa prédication basée sur le texte de Luc 1, nous avait rappelé trois choses importantes concernant cette grâce inespérée et imméritée. Donc, on avait vu avec lui que cette grâce était une grâce puissante, une grâce renversante, une grâce constante. Ce matin, nous allons continuer à cheminer ensemble dans l'évangile de Luc. Notre lecture se trouve au chapitre 3. Donc, nous lirons du verset 1er jusqu'au verset 14. Par contre, notre temps de prédication sera particulièrement concentré du verset 1er jusqu'au verset 6. Luc, chapitre 3, versets 1 à 14. Donc, je lis dans la version Semeur qui est plus simple à comprendre. La 15e année du règne de Tibère César, Ponce Pilate était gouverneur de la Judée. Hérode régnait sur la Galilée comme tétrarque, son frère Philippe sur l'Iturée et la Traconitide, Lysanias sur la Bilène. Anne et Caïphe étaient grands prêtres. Donc cette année-là, Dieu adressa la parole à Jean, fils de Zacharie dans le désert. Jean se mit à parcourir toute la région du Jourdain. Il appelait les gens à se faire baptiser en signe d'un profond changement afin de recevoir le pardon de leurs péchés. Ainsi s'accomplit ce que le prophète avait écrit dans son livre, le prophète Ésaïe. On entend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert. Préparez le chemin pour le Seigneur. Faites-lui des sentiers droits. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les voies tortueuses deviendront droites, les chemins rocailleux seront nivelés, et tous les hommes verront le salut de Dieu. Jean disait à ceux qui venaient en foule pour se faire baptiser par lui, espèce de vipère, qui vous a enseigné à fuir la colère de Dieu qui va se manifester? Produisez plutôt pour fruit des actes qui montrent que vous avez changé. Ne vous contentez pas de répéter en vous-même, nous sommes les descendants d'Abraham, car regardez ces pierres. Je vous déclare que Dieu peut en faire des descendants d'Abraham. La hache est déjà sur le point d'attaquer l'arbre à la racine. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Les foules lui demandèrent alors, que devons-nous faire? Il leur répondit, si quelqu'un a deux chemises, qu'il en donne une à celui qui n'en a pas. Si quelqu'un a de quoi manger, qu'il partage avec celui qui n'a rien. Il y avait des collecteurs d'impôts qui venaient se faire baptiser. Ils demandèrent à Jean, Maître, que devons-nous faire? N'exigez rien de plus que ce qui a été fixé, leur répondit-il. Des soldats le questionnèrent aussi. Et nous, que devons-nous faire? N'estorquez d'argent à personne et ne dénoncez personne à tort. Contentez-vous de votre solde. Luc, dans la présentation qu'il fait de Jean-Baptiste, dans les premiers versets, suit en effet des règles très anciennes de la littérature biblique. En effet, dans les deux premiers versets, Luc va situer son récit par rapport au règne des gouverneurs gréco-romains de son époque. Dans l'Ancien Testament, tous les événements importants du salut étaient datés. Et à la manière des prophètes, Luc fournit une date bien précise pour situer le ministère de Jean-Baptiste. Donc, la venue de Jean-Baptiste constitue pour nous chrétiens un événement important de notre salut et de notre foi. Et la manière dont Luc va présenter même Jean-Baptiste rappelle fortement l'appel au ministère prophétique des prophètes de l'Ancien Testament. En effet, les auteurs bibliques aimaient bien situer le contexte politico-géographique des prophètes. Prenons un exemple, les premiers versets du livre d'Osée. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Osée, fils de Béri, au temps d'Ozias, de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. Jean-Baptiste est donc un prophète, un envoyé, un messager de l'Éternel. Par ailleurs, sa manière de vivre, qui nous est rapportée par d'autres prophètes, dont Matthieu, nous rappelle fortement celle du prophète Élie. Donc, dans l'attente du commencement du ministère de Jésus-Christ, Dieu appelle Jean-Baptiste à annoncer, à délivrer un message. Donc, le thème de notre prédication de ce matin est le suivant, « Vivre l'attente de la venue du Seigneur ». Et je décline ce thème en deux parties. C'est un peu scolaire, excusez-moi. Donc, la première partie, c'est « Vivre l'attente du Seigneur », donc la nécessité de la repentance. Et le second point, « Vivre l'attente du Seigneur », la nécessité de préparer le chemin. Vivre l'attente du Christ, la nécessité de la repentance. Nous l'avons vu, nous l'avons chanté, que Jésus s'est incarné pour mourir à notre place. Et nous l'avions vu dimanche dernier, que Marie, dans son cantique, avait rendu gloire à Dieu d'une telle grâce. Cette grâce, en effet, imméritée, puissante, renversante et constante, manifestée en la venue de Jésus-Christ, a pour objet de payer la condamnation qui pesait sur nous. Donc, dans notre texte, suite à l'appel reçu du Seigneur, Jean le Baptiste se met à parcourir le territoire autour du Jourdain en annonçant le baptême de repentance et il ajoute pour la rémission, le pardon des péchés. Ainsi, Jean commence à préparer le ministère de Jésus. Et cette repentance, cette remission, ce pardon des péchés, bien sûr, n'est possible qu'en Jésus-Christ. Frères et sœurs, qu'est-ce que la repentance? Quels sont les ingrédients de la repentance? La repentance dans la Bible, c'est un changement de direction, c'est quitter la voie du mal pour se tourner vers Dieu. Donc la repentance, c'est un changement radical de vie, de comportement, d'attitude intérieure. La repentance est donc cet acte dirigé par l'action de l'Esprit que nous faisons envers Dieu. Dans l'Ancien Testament, les récits prophétiques regorgent d'appels où les prophètes invitent le peuple de Dieu à se détourner des idoles, des mauvaises voies, pour se tourner vers Dieu. Et la repentance revêt un aspect important, un aspect vital, car détourné de Dieu, le peuple périssait, subissait la colère de Dieu. Donc, se repentir, se détourner des idoles pour se tourner vers le véritable Dieu, et donc était souvent accompagné d'une promesse de salut. L'acte de repentance, tel que Jean le Baptiste l'explique ici, est nécessaire à la vie chrétienne. Et cet acte-là est associé à la conversion. La repentance, nous venons de le voir, consiste à se détourner des idoles pour se tourner vers Dieu. Pour nous chrétiens qui sommes convertis depuis longtemps, qui suivons le Christ depuis un certain nombre d'années, peut-être que cet acte de repentance ne nous concerne plus. Après tout, Jean ne s'adressait pas ici à des personnes qui ne connaissent pas encore le Messie. Pour autant, frères et sœurs, cet acte de repentance ne s'arrête pas au jour de notre conversion. Quels sont les ingrédients de la repentance ? Une véritable repentance produit du fruit dans la vie du chrétien. Et le salut reçu est si conséquente, si engageante, que Dieu nous appelle à produire du fruit. Et à la lumière de notre texte, on va considérer simplement trois exemples, donc trois composantes d'une véritable repentance. Nous voyons effectivement, suite à la prédication de Jean-Baptiste, différents groupes de personnes qui viennent à lui pour être baptisés et qui cherchent à savoir comment se préparer à la venue du Seigneur. La première composante de la repentance est la demande et la réception du pardon de Dieu. Et à ceux qui croyaient justement que leur appartenance à Dieu était suffisante pour être sauvés, Jean répond de manière catégorique en les exhortant à produire du fruit de la repentance. Pour nous, frères et sœurs, qui nous repentons, nous devons avoir confiance en Dieu, c'est-à-dire avoir confiance que Dieu pardonne et restaure la relation. À l'instar de David, ayons confiance en ce Dieu, en notre Dieu, qui nous pardonne et qui nous relève après nos fautes. La deuxième composante de la repentance est la pratique de la justice. Des collecteurs d'impôts et des soldats viennent auprès de Jean et cherchent à savoir aussi comment se préparer à la venue de Jésus. Et la réponse de Jean est toute simple. Il exhorte ces personnes à pratiquer la justice en ne commettant ni fraude ni extorsion envers la population. La troisième composante de la repentance consiste à produire des fruits dignes de la repentance. Donc, à la foule qui interrogeait Jean sur ce qu'elle devait faire, Jean les invite à pratiquer la libéralité, la générosité, que celui qui a deux chemises partage avec celui qui n'en a pas, et que celui qui a de quoi à manger fasse la même chose. Jean le Baptiste apostrophe ses compatriotes à changer de vie, de comportement, d'attitude intérieure. Donc, nous le voyons, une véritable repentance doit se traduire par un changement, par des actes. Et ce faisant, Jean s'élève contre une croyance très répandue à son époque. En effet, beaucoup de Juifs pensaient que le seul fait d'appartenir, d'être descendant d'Abraham, leur assurait le salut. Une telle croyance peut encore exister de nos jours. Combien de personnes, combien de chrétiens négligent la nécessité d'une véritable repentance? Combien de chrétiens peuvent croire que leur présence, parfois occulte, les exempte d'une véritable repentance? Et ce message de repentance est nécessaire. Et Calvin, le réformateur, écrit à ce sujet: quand on a affaire à des gens qui sont coutumiers de mentir à Dieu et se flatter eux-mêmes, et lesquels, au lieu de vraie affection, apportent des mines et une belle apparence, il faut les presser de plus près et les manier au vif pour les amener à la repentance. C'est ainsi que Calvin a parlé de personnes. Donc, frères et sœurs, en ce temps de l'Avent, nous annonçons un double événement. Nous célébrons en effet la venue de Jésus parmi nous et en même temps, nous annonçons sa seconde venue. Dans l'attente de cette seconde venue de notre Seigneur, que nous puissions nous laisser exhorter par cet appel retentissant de Jean-Baptiste à nous repentir, à reconnaître nos fautes devant Dieu, à avoir l'assurance que Dieu nous pardonne et bien sûr à produire des fruits dignes de cet acte de repentance. Le prophète, dans le message adressé à ses compatriotes, fait une citation, donc un peu plus loin du verset 3 à 5, fait une citation qui est tirée du livre d'Ésaïe. Donc là, nous sommes au grand 2, vivre l'attente du Seigneur, la nécessité de préparer le chemin. Dans la prophétie d'Ésaïe, il est question d'une voix qui retentit dans le désert et qui appelle le peuple à préparer un chemin, à réparer les routes en vue de la venue de l'Éternel. Et Ésaïe se garde, donc au chapitre 40, de révéler l'identité de ce personnage. Pourquoi Jean-Baptiste emploie-t-il cette citation du prophète ici? Donc, cette voix criant dans le désert est celle de Jean-Baptiste appelant le peuple à la repentance. Donc, cette citation du prophète Ésaïe, bien des siècles avant, va conforter ainsi ce que le prophète annonçait et va aussi confirmer le ministère de Jean-Baptiste. Ce commandement d'Ésaïe est adressé au peuple de Dieu. Le prophète, donc, les appelle, c'est une injonction à la repentance. Ésaïe s'adresse à un peuple qui vit en servitude. Et dans le chapitre duquel cette citation est tirée, Dieu annonce à son peuple la délivrance, le salut. Et dans l'attente de ce salut, Dieu les invite à préparer la voie, à préparer le retour de l'Éternel. Le désert représente les obstacles et les difficultés du peuple qui ont éloigné Dieu de lui. Et aujourd'hui, frères et sœurs, ces obstacles pourraient être une image, nous l'avions chanté, je crois que c'était le tout premier chant, de l'orgueil humain, de l'attitude de celui qui compte sur lui-même et sur ses seules ressources humaines, et ce qui empêche le Seigneur d'accorder la délivrance. Cet orgueil humain doit être rabaissé pour laisser place à la foi. Comme il l'avait fait dans les temps passés, le Seigneur survient pour délivrer son peuple. Il le fait encore une fois en survenant du désert. Donc, ce que Jean annonce ici, cela a encore une plus grande portée que ce que Ésaïe a annoncé. Effectivement, Ésaïe utilisait toute une série d'images, donc de routes, de chemins, de voies, pour montrer la préparation. Donc, Jean reprend tout cela et va montrer que, avec la venue de Jésus-Christ, cette préparation sera complète, sera totale. Donc, tous les obstacles vont être enlevés. Et les péchés du peuple qui les éloignaient de Dieu seront effacés. Donc, la voie, le chemin sera restauré. Le chemin réparé, restauré, alors la gloire de Dieu peut se manifester. Et cette gloire qui se manifeste ne se manifeste pas uniquement à ceux qui placent leur confiance en Dieu. Et Jean, donc, en citant Ésaïe, nous dit que tous les hommes verront sa gloire. Donc tous seront témoins de la gloire de Jésus. Et cette gloire de Jésus s'est manifestée, bien sûr, par sa venue, dont Jean préparait. Frères et sœurs, dans ce passage, il nous est dit que Dieu interviendra pour donner une expression concrète au fait qu'il nous a pardonné. Dieu, en effet, ne laisse pas le peuple là où il est. Il est question de Dieu qui ramène le peuple chez lui. Et en ramenant le peuple d'Israël, donc Dieu les garde, les rassemble, les porte et les conduit comme un berger prend soin de son troupeau. Et en regardant ce spectacle, le monde apprend quel Dieu, quel grand Dieu il est, quel grand Dieu est le Dieu d'Israël. Donc la gloire de l'Éternel se révèle, se manifeste à l'humanité. Dieu se révèle d'une manière toute particulière. Jean applique ici, donc nous l'avons vu tout au long de ce message, une vérité déjà palpable. C'est que Dieu, le Seigneur, est un Seigneur missionnaire. Ce qu'il fait par lui-même, il ne le fait pas seulement pour le bien de son peuple. Il le fait également afin que tous puissent en venir à le connaître comme véritable Dieu. Et donc que tous puissent aussi accomplir cet acte de repentance. J'aimerais conclure ce temps de méditation. Quelle heureuse nouvelle qu'est ce temps de l'Avent. L'évangile de Jésus-Christ, c'est l'évangile d'Ésaïe, avec un ton beaucoup plus retentissant, beaucoup plus impactant. Et ici, l'annonce du retour de Jésus se vit par la repentance et par la préparation de son retour. Et de plus, ce message, cet évangile, est beaucoup trop important pour être confiné à un seul peuple, à une seule église, à un seul milieu chrétien. Et ce message doit être crié depuis tous les toits, non seulement ici au sein de l'église d'Antony, mais aussi au monde entier pour qu'ils l'entendent, et au monde, à la ville d'Antony, pour qu'ils l'entendent, que ce Dieu, nous avons un Dieu qui va venir, et que dans l'attente de cette venue, nous devons nous préparer par la repentance et aussi préparer sa venue. Voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous ce matin, et je vous invite simplement à prendre un temps par la prière. Et si une personne voudrait bien prier, puis moi je conclurai. Et juste dans ce temps de prière, je pense qu'on peut juste renouveler, prier encore une fois pour les ados qui sont justement à l'heure actuelle dans la ville d'Antony, parcourent les rues de la ville, justement pour distribuer cet évangile de grâce à nos concitoyens de cette ville. Donc, j'invite une personne à élever la voix et après moi je conclurai. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci Merci pour ta parole qui nous rappelle encore cette attente que nous vivons, ta seconde venue. Oui Seigneur, merci parce que tu nous donnes aussi des indications sur ce que nous devons faire pour préparer cette attente. Seigneur, merci pour ton évangile qui nous exhorte, qui nous apprend aussi comment te suivre, comment obéir. Seigneur, nous voulons particulièrement en ces temps de fête penser à ta venue, mais aussi penser plus encore à ta seconde venue. Et nous voulons aussi en profiter pour annoncer ta parole, pour annoncer ton évangile à ceux qui ne te connaissent pas. Oui Seigneur, nous te prions particulièrement pour ce groupe de jeunes qui est parti distribuer ton évangile, que nous puissions penser à eux par la prière et que ton esprit puisse également les accompagner et toucher les cœurs des personnes qu'ils vont rencontrer. Oui Seigneur, merci pour ce temps que nous vivons ensemble. Merci aussi pour ton évangile. Merci pour ce temps fraternel, ce temps communautaire. Nous te prions d'être avec nous, de nous garder jusqu'à ton retour. Au nom de ton Fils Jésus et par ton Esprit Saint. Amen.
Merci pour ce partage. Et c'est vrai que Christine et moi, même il y a 10 ans, on voyait comment Freud avait cette passion pour le Seigneur. Et c'est vraiment un encouragement aujourd'hui même de le voir qui nous encourage avec la parole de Dieu. Et cet appel à la repentance et cet appel à la préparation du chemin, on veut aussi le chanter parce que c'est vrai que le Seigneur, il est venu, il revient bientôt, il revient à Sion. Et les Écritures nous disent que son pied foulera le mont des Oliviers. Alors, je ne sais pas s'il y en a parmi nous qui sommes allés en Israël, mais si vous avez vu ce mont des Oliviers face